Vous écoutez, on lit pour vous.
La recherche scientifique en terre de conflit par Anne-Marie Provost, paru dans Quatre temps, printemps 2023. Dans certaines parties du monde, des zones d'une biodiversité exceptionnelle sont menacées par la guerre. C'est le cas au Kurdistan irakien où des orchidées rares poussent au milieu des mines. Nous sommes à la fin du mois de mars et les premières orchidées de la région autonome du Kurdistan, dans le nord de l'Irak, commencent à fleurir. Comme la température est douce, des familles en profitent pour se rassembler dans l'herbe au bas des montagnes, même si le sol est parfois jonché de déchets de plastique parmi lesquels poussent des fleurs. Pour les biologistes de la région, la pollution n'est pourtant pas le seul enjeu. Honar Mahdi, chargé de cours en conservation de la biodiversité et gestion des écosystèmes à l'Université de Duhok, raconte que les bombardements incessants de la Turquie contre les militants du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, empêchent les scientifiques d'accéder à des secteurs d'intérêt. À cela s'ajoutent les centaines de milliers de mines antipersonnelles qui datent de l'époque de Saddam Hussein, qui sont éparpillées le long de la frontière avec la Turquie, au nord, et avec l'Iran, à l'est. C'est le long des frontières que nous retrouvons le plus de biodiversité, mais ce sont les endroits les plus inaccessibles à cause des conflits, explique Honar Mahdi. Cette liberté de mouvement limitée a un impact sur notre travail. Le Kurdistan est considéré comme un habitat vierge où de nombreuses espèces n'ont pas encore été recensées. Au sein d'une équipe dirigée par Harold Vela, botaniste français spécialiste des orchidées, Honar Mahdi a participé à des travaux exhaustifs de classification des orchidées dans la région entre 2013 et 2018. L'équipe a fait la découverte d'espèces jamais recensées sur le territoire et a publié un ouvrage sur la question. Son collègue, Ahmed Mahmoud, biologiste spécialisé en conservation de la nature et chargé de cours à l'Université de Duhok, souligne que les excursions en terrain plus dangereux ont été soigneusement planifiées. Avant de nous déplacer, nous devions demander aux villageois si l'endroit est sécuritaire. Par exemple, lorsque nous avons visité le parc national Sakran à Algourd, on nous a conseillé de ne pas sortir de notre voiture en raison des mines, explique-t-il. Mais les spécialistes sont parfois laissés à eux-mêmes. Ahmed Mahmoud est amer lorsqu'il est question du peu de soutien des autorités au Kurdistan dans le recensement des orchidées. Tout, jusqu'à l'impression de leur ouvrage qui a finalement été publié par la Société méditerranéenne d'orchidologie en France, a été payé de leur poche, dans un contexte où la conservation d'écosystèmes ne font pas partie des priorités du gouvernement. Selon les estimations, 46 % des espèces d'orchidées recensées sont considérées comme rares ou très rares. 35 % sont occasionnelles, alors que seulement 19 % sont communes, d'où l'urgence d'une stratégie de conservation dans la région. Outre les conflits, la destruction d'habitats causée par la déforestation, le surpâturage, les activités récréatives et le commerce illégal sont des menaces additionnelles. Les tubercules des orchidées sont en effet transformés en farine, l'ingrédient de base dans la confection d'un breuvage populaire nommé salep et de dessert. Dans la région, on vend la poudre jusqu'à 800 dollars US le kilo à des commerçants turcs qui la revendent à leur tour. un territoire unique. Le Kurdistan irakien est inclus dans la limite sud du point chaud irano-anatolien, considéré comme un territoire de haute valeur en termes de biodiversité. Cet immense secteur couvre principalement l'Iran et la Turquie et s'étend jusqu'au Turkménistan. Il abrite au moins 6000 espèces végétales, dont 2500 sont endémiques, comparativement à une centaine de plantes endémiques au Canada. Au Kurdistan, 3600 espèces de plantes sont recensées. Mais en réalité, il y en a beaucoup plus, fait valoir Onar Mahdi. La zone explorée par les scientifiques est située à une intersection clé entre des régions méditerranéennes, tempérées et arides. Le large éventail de domaines bioclimatiques allant du semi-aride chaud à l'alpin froid et l'éventail des caractéristiques topographiques allant des plaines aux montagnes favorise la richesse de la faune et de la flore. Nous sommes ici à la limite de l'aire naturelle de répartition des orchidées. Au sud, c'est le désert, et à l'est, les steppes iraniennes et la fin de la zone méditerranéenne. Note Errol Vella, professeur à l'Université de Montpellier en France et botaniste, qui a dirigé la rédaction de l'ouvrage sur les orchidées du nord de l'Irak. Lors de leurs travaux sur le terrain, entre 2013 et 2018, les chercheurs ont recensé 26 espèces d'orchidées dont la présence est parfois limitée à une petite région. Elles poussent à flanc de montagne, dans des forêts ouvertes, à basse altitude et souvent au bord des cours d'eau. Les genres dominants sont Ophrys et Anacamptis, avec respectivement 6 et 5 espèces. Les genres les plus rares sont Cephalanthera, Limodorum et Neotinea, qui comptent seulement une espèce. Les orchidées du Kurdistan ont la particularité d'être en fleur au printemps, avec un sommet en avril. Elles ne fleurissent que pendant 3 mois, avec un décalage d'un mois par étage bioclimatique en altitude, indique Harold Vella. Comme l'explique Onar Mahdi, la région étudiée est un point chaud pour la biodiversité, mais un point froid en termes de connaissances. La collaboration nationale et internationale entre les scientifiques et les autorités administratives est donc indispensable pour mieux connaître et protéger l'éblouissante nature de ce coin du monde exceptionnel et méconnu. C'était la recherche scientifique en terre de conflit par Anne-Marie Provost, publiée dans 4 temps, printemps 2023.
Jardinage, contrôler les insectes nuisibles sans insecticides. Un texte d'Isabelle Paquin, paru le 27 juin 2023 dans le magazine Châtelaine. Déjouer les insectes ravageurs sans l'utilisation de pesticides, c'est plus facile qu'on l'imagine. Voici diverses approches à privilégier. Tous les jardins de fleurs comme les potagers, même les plus petits, constituent des écosystèmes abritant des milliers d'êtres vivants en majorité invisibles à l'œil nu, allant des micro-organismes aux insectes, en passant par la faune animale. Un équilibre précaire se crée, ce qui favorise la pollinisation et l'attraction d'ennemis naturels aux insectes nuisibles. En appliquant des pesticides, même biologiques, on peut perturber l'harmonie établie. Plusieurs de ces produits sont non sélectifs et détruisent tous les insectes sans distinction. Il convient donc de s'en servir en dernier recours et avec précaution. prendre soin de ses alliés. Les principaux pollinisateurs, on connaît. Mais que dire des insectes qui protègent nos potagers? Au Québec, les insectes prédateurs communs sont les coléoptères, coccinelles, carabes, les hémiptères, punaises, les diptères, syrphes, et les neuroptères, chrysopes. Il ne faut surtout pas les éliminer, car ils mangent leur proie avec une efficacité redoutable. Une larve de coccinelle à 7 points engloutit 100 pucerons par jour, tandis que les guêpes et mouches parasitoïdes ne manquent jamais leur cible. D'autres pondent pour se développer dans le corps d'autres insectes, comme la mouche tachinaire sur le scarabée japonais. Pour les attirer, on cultive une diversité de plantes aux couleurs, formes et périodes de floraison variées. La plupart se nourrissent du nectar des fleurs de la famille des apiacées, aneth, coriandre, fenouil et astéracées, achillée, cosmos, rudbecky, tournesol, avec une préférence pour les plantes indigènes, quoique envahissantes, comme la carotte sauvage, le pissenlit, la verge d'or et la vergerette du Canada. Il est également souhaitable d'augmenter sa tolérance à la présence d'insectes ravageurs, afin de nourrir les espèces utiles. Ainsi, on contrôle les populations au lieu de les exterminer. Mieux vaut prévenir que guérir. Planifier pour prévenir les attaques des indésirables est primordial. D'abord, respecter une rotation de culture évite l'appauvrissement du sol et la prolifération d'insectes ainsi que de maladies. La règle est simple. On change d'emplacement les légumes de familles et de types végétatifs différents chaque saison pour confondre les envahisseurs. Par exemple, on cultive les tomates cette année, la suivante les choux, puis les carottes. Ensuite, on fournit les meilleures conditions de croissance, soit de bonne distance entre les plants, suffisamment de lumière et d'eau dans un sol riche et aéré. Finalement, on désherbe les végétaux non désirés qui font compétition avec ces nouvelles plantations. Protéger son potager. Recouvrir les jeunes plantules de filets anti-insectes déposés sur des arceaux dès les semis et la plantation est une astuce infaillible. Pour lutter contre la teigne dans le poireau, l'ail et l'oignon, le filet peut être maintenu durant toute la saison. Même chose pour les insectes du chou et du brocoli. On choisit les plus longs arceaux afin que les plantes puissent s'épanouir. Pour ce qui est de la chrysomèle rayée du concombre, la punaise et le perceur des courges, l'idéal est de conserver le filet durant les premiers stades de croissance, puis de l'enlever pour permettre la pollinisation des fleurs. Cette option est valable aussi contre le doryphore de la pomme de terre, puisqu'elle donne le temps au feuillage de se densifier avant l'attaque. La rotation de culture est nécessaire, sinon les insectes hivernant au sol se retrouveront enfermés dans un buffet à volonté. Bien observer son jardin. Peu importe l'approche privilégiée, le dépistage est primordial. On observe régulièrement ces plantes, pour avoir des repères sur leur santé, en suivant l'évolution des interactions entre les insectes nuisibles et bénéfiques, on évalue mieux la gravité des dommages et le moment propice pour s'en mêler. Quand intervenir et comment? Les populations d'insectes sont très nombreuses. On s'interpose mécaniquement, surtout quand les plantes sont petites. Voici comment. Arroser d'un jet d'eau pour déloger les pucerons. Souvent, les fourmis en font l'élevage, les ramenant au même endroit. Il faut tenir bon pour permettre à la plante de pousser. Écraser les adultes, chrysomèles, doryphores, punaises, les œufs et larves, chenilles du chou, doryphores, punaises et perceurs de la courge, teigne du poireau. Maintenir une légère humidité pour chasser les altises, choux, radis, roquettes, navets. Passer l'aspirateur sur les doryphores de la pomme de terre. noyer les scarabées japonais dans l'eau savonneuse le matin, à l'exception des scarabées parasités, point blanc sur l'insecte. En somme, nul besoin de pesticides. Une surveillance constante et rigoureuse, combinée à ces pratiques, aura l'avantage de garantir de belles récoltes en préservant la biodiversité de son jardin. C'était « Jardinage, contrôler les insectes nuisibles sans insecticides », un texte d'Isabelle Paquin paru le 27 juin 2023 dans le magazine Châtelaine.
Découvertes archéologiques du 21e siècle. Un texte de Joël Leblanc, paru le 24 avril 2023 dans le magazine Curium. Voici cinq découvertes archéologiques majeures du 21e siècle. Mystérieux lieux de culte. Turquie. D'abord découvert dans les années 1990, Göbekli Tepe. Un site archéologique de l'est de la Turquie a été fouillé récemment. On y trouve des monolithes vieux de 11 000 ou 12 000 ans, raconte Frédéric Autin. Ces blocs taillés dans la pierre nous indiquent clairement que c'était un lieu de culte et de rassemblement. Or, de tels lieux sont généralement plus récents. Ils sont associés à des peuples sédentaires vivant dans des villes et pratiquant l'agriculture. Mais près de Göbekli Tepe, aucune trace de ville ni d'agriculture. Ce site a été construit par des nomades, des chasseurs-cueilleurs, ce qui bouleverse nos perceptions, dit l'archéologue. Il semblerait que nos ancêtres avaient faim de spiritualité autant que de nourriture. Premier fort du Saint-Laurent. Cap-Rouge. J'ai eu la chance et la fierté de découvrir en 2005 un premier tesson de faïence italienne datant de la Renaissance dans le secteur de Cap-Rouge à Québec, se rappelle Yves Chrétien. Il venait alors de découvrir le site du premier fort construit dans la vallée du Saint-Laurent par Jacques Cartier et le sieur de Roberval entre 1541 et 1543. À cette époque, il s'agissait d'une première tentative de colonisation sur le territoire. Mais l'aventure dura moins de 2 ans et il fallut attendre Samuel de Champlain 60 ans plus tard pour qu'une colonie permanente voie le jour, un peu plus à l'est, dans l'actuel Vieux-Port de Québec. Art rupestre inclusif. Europe. L'analyse de peintures rupestres trouvées dans des cavernes européennes a récemment démontré que certaines sont l'œuvre de femmes et d'enfants. Les traces de mains sont trop petites pour être attribuées à des hommes adultes, dit Frédéric Autin. Dans quelques grottes, on a également retrouvé des traces de pas fossilisés laissées dans l'argile il y a des milliers d'années. Des gens du peuple San d'Afrique du Sud ont été invités à les observer. Passés maîtres dans l'art de pister les animaux et les humains, ils ont remarqué que certaines empreintes avaient été faites par des femmes enceintes. Présence humaine au Québec. Lac mégantique. Une des plus vieilles cultures préhistoriques d'Amérique du Nord s'appelle la culture Clovis. Il s'agit de la première population du continent. On trouve surtout des sites d'âge Clovis aux États-Unis, mais ces populations ont également colonisé le territoire vers le nord à mesure que les glaciers se retiraient. Elles suivaient les troupeaux de caribous, et elles sont venues jusqu'au Québec. On l'a longtemps supposé, mais en 2003, l'archéologue québécois Claude Chapdelaine l'a prouvé. Il a découvert des outils en pierre taillée, typiques de la culture Clovis, sur le territoire de la ville de Lac-Mégantic, en Estrie. Les premières personnes à avoir habité le Québec sont donc arrivées il y a environ 12 500 ans. L'Amérique depuis 24 000 ans. Yukon. En 2017, Ariane Burke de l'Université de Montréal a démontré que des ossements d'animaux vieux de 24 000 ans trouvés au Yukon portaient des marques laissées par des humains. Avant cette découverte, les plus anciennes preuves de la présence d'humains en Amérique remontaient à 14 000 ans, explique Karine Taché. La découverte a donc repoussé cette arrivée de 10 000 ans. C'était « Découvertes archéologiques du 21e siècle », un texte de Joël Leblanc paru le 24 avril 2023 dans le magazine Curium.
Fatigue physique et mentale, deux côtés d'une même médaille, un texte de Charlie Hood et Louis-David Beaulieu paru dans le magazine Reflet de mars 2024, volume 40, numéro 3. La fatigue est probablement l'un des phénomènes les plus répandus dans nos vies. Certaines personnes la recherchent activement, à titre de gage d'une journée productive ou d'un entraînement payant, d'autres la redoutent. Pourtant, la fatigue reste à ce jour un phénomène mal compris et sujet à débat. Certains l'attribuent à un problème physiologique tangible, pouvant être mesuré objectivement, d'autres à une perception subjective, surtout influencée par les émotions. Ces multiples facettes complexifient l'étude et la compréhension de la fatigue. Plus important encore, aucun consensus n'existe quant à sa définition qui varie en fonction du domaine scientifique. La fatigue mentale et la fatigue physique sont les deux plus grands types de fatigue étudiés jusqu'à maintenant. La fatigue physique se caractérise par une perception d'effort accru lors d'une tâche physique avec ou sans baisse de performance. La fatigue mentale est causée par un effort cognitif soutenu, entraînant une sensation de manque d'énergie et de motivation, ainsi qu'une baisse de performance cognitive. La fatigue mentale est particulièrement complexe, ce qui la rend d'autant plus intéressante à étudier. Elle peut se manifester de manière subjective, comportementale et physiologique. Subjectivement, on note une sensation de fatigue accrue, un manque d'énergie, une perte de motivation et de vigilance. Sur le plan comportemental, elle cause une baisse de performance et un temps de réaction plus lent lors d'une tâche cognitive. Sur le plan physiologique, on note une altération de l'activité cérébrale. Chez une personne souffrant d'atteintes neurologiques, la fatigue mentale est souvent nommée comme étant l'un des symptômes les plus courants et invalidants. Sur le lieu de travail, la fatigue mentale est associée à un risque accru d'erreur. Toutefois, des stratégies compensatoires peuvent atténuer ces problèmes. Notre cerveau serait capable d'engendrer un engagement cognitif plus grand permettant de mieux traiter l'information et diriger notre attention. Cela pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi l'activité cérébrale change en présence de fatigue. L'autorégulation, définie comme une capacité mentale permettant d'exercer un contrôle sur nos comportements, pensées et émotions, est un autre mécanisme compensatoire pouvant limiter l'impact de la fatigue. La motivation est aussi un moteur important pour mettre en branle ces mécanismes. D'un autre côté, ceux-ci provoquent un coût énergétique et cognitif plus important, se traduisant par une augmentation du risque de décisions impulsives. Les définitions et preuves scientifiques semblent suggérer que la fatigue physique et la fatigue mentale sont deux types distincts de fatigue, ayant leurs propres mécanismes explicatifs et conséquences. Pourtant, de récentes recherches établissent un lien entre ces deux types. En effet, la présence d'une fatigue mentale semble avoir un effet délétère sur la performance physique, particulièrement lors de tâches soutenues. Pour des performances d'endurance, l'effort serait perçu comme plus élevé s'il y a fatigue mentale. Cependant, L'impact sur la fréquence cardiaque, la capacité aérobie maximale ou la consommation d'oxygène semble incertain. De même, la performance et la perception d'effort lors d'exercices de haute intensité semblent moins influencées par la fatigue mentale, possiblement parce que ce type d'effort nécessite très peu de ressources cognitives. À l'inverse, les tâches exigeantes mentalement devraient être évitées avant ou pendant une épreuve nécessitant un effort d'endurance soutenu. Très peu d'études ont porté sur la relation inverse, c'est-à-dire l'impact de la fatigue physique sur les fonctions cognitives, mais les preuves actuelles semblent également pointer vers un effet négatif. En outre, la participation à un programme d'exercice physique sur plusieurs semaines peut influencer positivement la perception de fatigue au quotidien et la performance cognitive chez différentes populations, par exemple, personnes souffrant d'atteintes neurologiques, personnes âgées. Ces différentes preuves scientifiques tracent un lien intrigant entre fatigue et fonctions physiques et cognitives. Toutefois, les mécanismes permettant d'expliquer une telle interaction demeurent peu connus. Est-ce que la fatigue, qu'elle soit physique ou mentale, n'est au fond qu'un seul et même phénomène s'exprimant de manière systématique, indépendamment du type d'effort? Ou en existe-t-il réellement des formes distinctes, ayant leur mécanisme propre, mais pouvant s'inter-influencer? Notre équipe de recherche s'intéresse à cette question et tente de mieux comprendre la façon dont les différents types de fatigue interagissent. Pour l'instant, il faut garder à l'esprit que la fatigue est un phénomène complexe et que plusieurs recherches et découvertes restent à faire afin d'en savoir plus sur cette créature insaisissable. C'était Fatigue physique et mentale, deux côtés d'une même médaille, un texte de Charlie Hood et Louis-David Beaulieu, paru dans le magazine Reflet de mars 2024, volume 40, numéro 3.